une chose qui, je crois, parle autant aux enfants, aux ados et aux parents. Nous allons parler des moments où on nous demande de faire quelque chose et que, bah non, vraiment, non, on n'a pas envie. C'est pas le bon jour, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne décennie, j'en sais rien, mais on n'a pas envie. Il y a 2 semaines, Laurence nous a parlé de rebâtir la maison de l'Éternel. Alors j'ai demandé ce matin à mes 2 garçons ce qu'il fallait pour construire une maison. Ils m'ont répondu, un marteau, un tournevis, un pinceau, une pince et des crayons. En résumé, des outils. Voilà. Ils m'ont dit aussi que, ouf, il faut aussi du bois et du fer. Donc des matériaux. Et quand on a tout ça, et ben, il manque quand même encore un truc. Alors vous allez me dire, les puristes, oui, il manque encore du béton, etc. Mais il manque quand même vraiment un truc, il faut des ouvriers. Voilà. Du coup, sommes-nous parmi l'équipe de bâtisseurs de la maison de l'Éternel? Quand bien même le Seigneur nous le demande, et quand bien même on voit quelle est la prochaine action qu'on pourrait faire pour y répondre, parfois, pour mille et une raisons, parfois seulement une, on n'a pas envie. Et c'est dans cette idée-là que je vous propose qu'on réfléchisse ensemble au chapitre 4 du livre d'Exode. C'est un dialogue entre Moïse et l'Éternel. Ça s'écoute facilement. Vous pouvez lire si vous voulez, mais je vais faire la lecture du chapitre 4. Moïse objecta. Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent « L'Éternel ne t'est pas apparu »« Qu'as-tu dans la main ?» demande l'Éternel. « Un bâton ?» Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit « Tends la main et attrape-le par la queue. » Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. Puis l'Éternel continua. Mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. Il la remit. Quand il la ressortit, elle était redevenue saine. Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces 2 signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, tu la répandras par terre, et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. Ah, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date pas d'hier ni d'avant-hier, et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Mais Moïse rétorqua, « Non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. » Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Eh bien, il y a ton frère, Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour te voir. Tu lui parleras et tu mettras des paroles dans la bouche, et moi je vous assisterai tous deux dans ce que vous aurez à faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple, il te servira de bouche et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Tu prendras ce bâton en main et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un chouïa de contexte pour mieux nous situer dans le récit. À l'époque de Moïse, le peuple d'Israël vivait comme esclave en Égypte. Sauf que Moïse, lui, il a été repêché du Nil par une princesse égyptienne quand il était encore bébé. Vous connaissez peut-être l'histoire. Du coup, lui, au contraire des autres Hébreux, il a été élevé et éduqué au palais royal. Et c'est là que ça coince. Pendant que le peuple, lui, travaille comme esclave pour les Égyptiens, Moïse, cela coule douce, au palais du roi d'Égypte. Bien qu'il soit Israël de naissance, il n'est pas l'ami du peuple. À 40 ans, il a tué un Égyptien. Ça s'est su. Et il a dû s'enfuir hors d'Égypte au pays de Madian. Le temps passa et l'esclavage des Israélites s'aggravait. À l'époque de notre récit, Moïse a 80 ans. Dieu, lui, a entendu les prières du peuple d'Israël. Il vient tout juste d'annoncer à Moïse qu'il veut le renvoyer en Égypte pour libérer tout le peuple d'Israël en le guidant hors d'Égypte. Mon message ce matin sera découpé en 3 points. Tout d'abord, on verra pourquoi Moïse n'a pas envie de faire ce que Dieu lui demande. En réponse à ça, nous verrons que Dieu est un Père compréhensif qui nous accepte avec ce que nous sommes. Et nous terminerons par voir que Dieu sait très bien faire avec nos faiblesses. Donc, premier point, le refus de Moïse. Deuxième point, Dieu est compréhensif. Et finalement, Dieu équipe. Avant de commencer, j'aimerais être sûr que, ici, dans cette assemblée, même nous, parfois, on n'a pas envie. Alors, soyez actifs, levez la main si la phrase vous concerne. Très bien. Maintenant, je vais prendre des exemples concrets, vous allez voir. Qui, parfois, n'a pas envie d'aller à l'école ou au travail le matin? Ça va, il n'y a pas que des hypocrites. Qui a déjà dit non à ses parents parce qu'il n'avait pas envie de ranger sa chambre? Ah, il y en a qui ont des souvenirs tenaces quand même parmi les grands. Parce que j'avais la version plus pour les adultes. Qui a déjà traîné les pieds quand il est largement temps de ranger le bazar dans son espace perso? Alors, espace perso, vous mettez ce que vous voulez, bureau, atelier, garage, j'en sais rien. Là où vous mettez, votre bazar. Oui, moi aussi, pardon. Bon, du coup, Moïse, il se sent un peu moins seul, s'il nous voyait. Il n'empêche qu'à la lecture du texte, on prend un certain plaisir, peut-être plaisir malhonnête, j'en sais rien, mais être spectateur d'un argumentaire, d'une tentative d'évitement perdue d'avance de Moïse. Verset 4. Et s'ils ne me croient pas? Et s'ils ne m'écoutent pas? Et s'ils me disent que je suis un menteur? Alors les enfants, est-ce que ça vous arrive de penser comme ça? De douter que les autres vont vous croire et que vous êtes un menteur? Comme je l'ai dit en introduction, Moïse vient de vivre 40 ans, loin de son peuple parce qu'il avait tué un Égyptien. Lui, il voulait juste faire quelque chose pour son peuple parce qu'il trouvait la situation profondément injuste. En retour, le peuple, à ce moment-là, lui a bien fait comprendre que Moïse n'était pas leur chef et qu'il n'avait du coup pas à lui obéir. Moïse a essayé de faire quelque chose et ça a plutôt mal tourné pour lui. Avec ce contexte en tête, quand Dieu lui dit « Si, tu vas retourner en Égypte et pour être leur chef », il est clair que Moïse, il n'a pas envie. Il a déjà essayé, et ça s'est plutôt mal passé, ça fait 40 ans qu'il traîne, entre guillemets, ça. Hein, 40 ans qu'il est dans le désert. Du coup, au verset 4, c'est le premier argument de Moïse. Lui, il ne se sent pas être un guide légitime face à son peuple, et ça, il le dit à Dieu. Peu après, au verset 10, il présente la situation sous un autre angle, en expliquant à Dieu qu'il n'a pas la parole facile. En fait, Moïse, il était bègue. Alors, le bégaiement, c'est un trouble qui fait que tu veux dire quelque chose, tu l'as dans la tête, mais ton corps, il galère comme un fou à essayer de le sortir. Déjà que Moïse était mal vu par son peuple, par le peuple, rajoutons à ça qu'à cause de son bégaiement, il est vraiment pas bon, enfin il se sait vraiment pas bon en tout cas, pour parler en public. Il pense qu'être bègue le rend incapable d'accomplir la mission que l'Éternel lui donne. Dieu lui dit en gros, mais si, ça va aller, c'est moi qui mettrai les mots dans ta bouche. Sauf que cette réponse apportée par Dieu ne lui convient pas, en tout cas pas complètement, puisque finalement, dans un ultime essai, il tente d'imposer son choix à Dieu. Verset 13, « Non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras, entre parenthèses, sous-entendu quelqu'un d'autre, pour cela. » Cet échange entre Dieu et Moïse, c'est un bras de fer. Moïse avance 5 arguments à Dieu. Les 3 premiers concernent sa légitimité. Le 4e, celui de son incapacité. Et le dernier et le 5e, le « Non, Seigneur, je t'en prie », est presque finalement un peu enfantin, mais c'est celui qui exprime la vérité. Moïse, il n'a pas envie de cette responsabilité de chef. Ça s'est vraiment mal passé la dernière fois. Il n'a pas envie de faire confiance à Dieu. Moïse est un homme avec son histoire, son vécu et ses doutes. Il a besoin que Dieu lui rappelle sa toute-puissance. Et ça va même peut-être un cran plus loin, car même si Dieu lui rappelle sa toute-puissance, quand là, devant lui, il fait 2 miracles, Moïse continue de craindre la mission que Dieu lui donne. Alors, une application peut-être un peu facile, mais et vous ? Vous en êtes où dans votre confiance en Dieu ? Quel est le truc dans la Bible avec lequel vous bloquez ? Gardez-vous confiance en Dieu quand vous n'avez pas de réponse à vos prières ? Avez-vous confiance dans les promesses d'une vie éternelle après celle-ci ? Avez-vous assez de confiance en lui pour lâcher prise dans les sujets du quotidien ? On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes capacités, et du coup, pas la même réponse à ce que Dieu nous demande. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Il sait que notre foi, a vie des hauts et des bas. Pour chacun d'entre nous, il veut nous accompagner pour faire grandir notre foi. L'Éternel prouve à Moïse qu'il le comprend, qu'il est à ses côtés. Et ça, c'est mon deuxième point. Dieu est compréhensif. En réponse à la crainte de Moïse de ne pas être écouté par son peuple, l'Éternel fait devant lui, on l'a vu, 2 miracles. Qu'as-tu dans la main ? Un bâton, jette-le par terre. Le bâton devint serpent. Tends la main, attrape-le par la queue, le serpent redevint bâton. Mets ta main sur la poitrine, sa main devint blanche comme la lèpre, blanche de lèpre d'ailleurs. Remets ta main sur ta poitrine, elle est redevenue saine. 2 miracles. L'Éternel montre et démontre à Moïse qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui veut envoyer, il n'y a pas de doute. Il répond à l'argument de cet homme de ne pas être cru quand il dira venir de la part de Dieu. Ces 2 miracles sont indiscutables. Parmi vous, qui a déjà vu un serpent ? Je veux dire, un vrai qui bouge, hein, pas un du jardin Lecoq, du musée du jardin Lecoq. Il n'y a pas longtemps, mais j'en ai vu un, ouais. Ok, maintenant, qui a déjà vu un bâton se transformer en serpent ? C'est plus compliqué à trouver, hein. Si ce n'est pas un miracle de Dieu, dans la nature, il est impossible de trouver un bâton se transformer en serpent. Et l'inverse aussi, d'ailleurs. Il est tout aussi impossible à une main parfaitement saine de tomber malade à un stade avancé de la lèpre, surtout quand le reste du corps est complètement sain. Ça ne marche pas. La lèpre, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas médecin, mais a priori, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ouvre une parenthèse afin que vous notiez que Dieu en profite au passage pour souligner son côté tout-puissant. Par ces 2 miracles, il maîtrise le serpent, symbole de Satan, du péché, et il maîtrise la mort, en considérant que la lèpre, à cette époque-là, était une maladie incurable et contagieuse. On est là, 2e chapitre. Du 2e livre de la Bible, et boum, l'Éternel annonce déjà qu'à la fin, c'est lui le patron. Il ne manque juste qu'un Jésus qui dit « Je reviendrai » et on passe directement au dernier livre de la Bible, Fin des temps, retour de Christ et victoire sur Satan. Ben, moi, je trouve ça cool que la Bible, parfois, fait des petits clins d'œil comme ça. C'est presque amusant. Enfin, faut lire le reste aussi. Hein. Vous arrêtez pas au chapitre 2 d'Exode. Le reste est intéressant aussi. Mais voilà, la Bible est cohérente. Je ferme ma parenthèse. Le second objectif de ces miracles, c'est de rassurer Moïse. L'Éternel ne fait pas que promettre qu'au bon moment, il fera des miracles. Il fait les miracles, là, maintenant, devant Moïse. Et il lui dit, tu veux pas me croire? Ok, je te montre. Je trouve que le style du dialogue, la manière dont Dieu procède, n'est pas sans rappeler celui peut-être des professeurs des écoles. Alors, imaginez la scène, on est fin mars, il y a 12 enfants dans la classe, et la maîtresse, elle annonce séance de travaux manuels, ok, découpage, collage, coloriage. Sur la table, il y a donc des feuilles, des poissons à découper, oui, fin mars, dans un pot, 12 ciseaux à bourron. Ben, la maîtresse, elle va faire quoi? La maîtresse, elle va aussi prendre une feuille, et elle va prendre une paire de ciseaux, et elle va montrer aux enfants comment faire. Il y a bien longtemps qu'elle s'est découpée. Elle n'a rien à prouver à personne, à mon avis. Et elle n'a pas forcément envie de ramener un joli poisson attaché au bout d'une bout de ficelle à ses parents. Pourtant, elle le fait. Elle montre aux enfants que c'est faisable. Même pour ceux qui savent qu'ils ne sont pas forcément forts pour découper droit et mettre plus de colle sur le papier que sur le doigt. Eh bien, dans notre texte, Dieu aussi se met au niveau de Moïse. Au verset 8, il dit « Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Si, toutefois, ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces deux signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, tu le répandras par terre, et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. » Vous avez entendu? Ça fait « si ». Si, 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 si. Dieu a repris les si de Moïse que Moïse avait donné comme argument. Dieu se met à son niveau. Dieu, il sait tout. Même le futur. À quoi ça rime qu'il fasse des suppositions s'il sait déjà tout? Il sait déjà quelle sera la réponse du peuple à Moïse. Ce n'est pas pour lui qu'il dit si, ce n'est pas pour se couvrir, c'est pour Moïse. Par une deuxième fois ici, l'Éternel montre à Moïse qu'il peut avoir confiance en lui malgré ce qui s'est passé 40 ans plus tôt. Cette fois-ci, ce n'est pas Moïse qui agit par ses propres forces, c'est Moïse qui agit par la puissance de Dieu. Prenons un peu de hauteur. Discuter avec Dieu comme le fait Moïse, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est des enfants, cours de récré, tout ça. L'Éternel reconnaît que nous avons notre propre histoire et nos propres blocages. Nous avons besoin que quelqu'un nous montre l'exemple. Nous dise « J'ai confiance en toi ». Et Jésus a été le meilleur exemple qui soit. Pendant 3 ans, il a montré aux disciples, par l'exemple, ce qu'il attendait d'eux. Jésus leur a dit, et il nous dit à nous aussi, « Vous n'êtes pas des champions. » Ce n'est pas pour ça que je vous ai choisi. Vous n'avez pas toutes les forces nécessaires pour réussir la mission que je vous donne. Mais regardez, je vous montre qu'avec l'aide de Dieu, ça passe. Par conséquent, et en particulier chez les enfants, moi, je suis le premier, moi, je suis le plus fort, moi, je suis le meilleur. On l'entend, on le voit, on le sent. Nous cherchons à être nous-mêmes glorieux par nos propres forces. Et à l'inverse, le Seigneur, lui, se glorifie par nos faiblesses. Et concrètement, peut-être pour parler de moi, mais ce n'est pas quand moi, Nicolas, chef de projet depuis 10 ans, je réussis à faire un planning, que Dieu se glorifie par ce que je fais. Ça fait partie de mes forces, mes compétences, mon histoire. Par contre, quand moi, Nicolas, introverti plus, prends mon courage à deux mains, et qu'à la fin du culte, je me mets un coup de pied aux fesses pour aller parler avec quelqu'un que je ne connais pas encore, là, Dieu se glorifie. Oser sortir de notre zone de confort. Oser... Pardon, ça arrive. Je vais le refaire. Oser sortir de notre zone de confort. Oser les choses à notre portée, mais dont on se sent bien incapable. Je vous ai parlé de mon cas personnel. Il faut trouver le vôtre. Ça se trouve pour vous, aller parler avec des inconnus, c'est facile, c'est normal, c'est la base. Le Seigneur veut se glorifier par chacun d'entre nous, et non par nos forces, mais vraiment par nos faiblesses. Et ça m'amène à mon troisième point, Dieu équipe. Après la dernière réponse négative de Moïse, l'Éternel se met en colère. Nous voyons ça au verset 14. Cette colère, là, on le sent, elle est justifiée. L'Éternel dit au verset 11 et 12 qu'il s'occupera personnellement des problèmes de diction de Moïse, ainsi que de lui trouver les mots justes à dire. Et cette réponse-là, même celle-là, elle ne convainc pas Moïse. La suite semble être une résignation de la part de Dieu à convaincre le chef israélite. Il décide finalement d'envoyer Aaron pour accompagner Moïse afin qu'il parle à sa place. Il est intéressant de voir que Dieu ne s'est pas débarrassé du problème, mais qu'il a apporté une réponse constructive et à la hauteur des attentes de Moïse. Il n'a pas dit « Bon, en fait, Moïse, ça ne va pas le faire, je vais trouver quelqu'un d'autre, t'inquiète. Retourne dans le désert, ça va bien se passer. » Malgré sa colère, il a finalement décidé d'envoyer quelqu'un d'autre, comme le suggérait Moïse, tout en gardant ce dernier comme missionnaire auprès du peuple, comme lui-même le souhaitait. Entre les versets 11 et 17, l'Éternel équipera Moïse par deux fois afin qu'il remplisse à bien sa mission d'aller chercher et guider le peuple. La première fois, il tente de le convaincre qu'il réglera son incapacité à parler. Pour faire ça, il lui rappelle que c'est lui qui a créé l'homme et qu'il l'a équipé d'une bouche, donc il sait comment ça marche. La seconde fois, il va plus loin en lui annonçant qu'il n'aura pas à parler au peuple et que Aaron le fera à sa place. Avec ce récit du livre d'Exode, nous sommes clairement dans l'Ancien Testament, ça il n'y a pas de doute. On est dans l'Ancienne Alliance, par conséquent. Dieu envoyait Moïse auprès du peuple hébreu en le rassurant qu'il serait avec lui. Aujourd'hui, le parallèle à ça, c'est que Jésus nous envoie auprès du monde entier en nous donnant l'Esprit Saint. C'est vraiment chouette de voir que malgré l'imperfection de l'homme, l'Éternel continue de confier cette mission d'être acteur de la part de Dieu autour de nous. Pour rentrer dans ce rôle, sachons lâcher prise sur nos incapacités, nos faiblesses, nos limites, ayant la foi dans la puissance de l'Esprit Saint qui vit en nous. Que retenir de ce texte? Avec quoi est-ce qu'on repart? En résumé, retenons que Dieu se glorifie là où nous sommes faibles. Nous sommes comme Moïse, nous sommes aux prises avec notre propre histoire et avec une certaine idée de nos compétences. Elle ne devrait pas être une justification à la non-mise en œuvre de notre foi par les actes. L'Éternel ne nous a pas fait super-héros, mais seulement juste normaux, avec des forces et des faiblesses. Il comprend que parfois nous n'avons pas envie parce qu'on ressent ne pas en être capable. Mais il nous donne aussi la solution par l'Esprit Saint pour nous mettre en route et pour bâtir son royaume. Et gloire à Dieu pour ça. Je vais prier.